N'ayez pas peur, répète sans arrêt l'Écriture. Pourtant, notre civilisation, il faut bien le dire, vit sans arrêt sous le régime de la peur. Et personne n'y échappe. Tout le monde a peur, tous nous avons peur. Les vieux, ils ont peur de la mort. Ceux qui sont un peu moins vieux sont angoissés par l'idée de devenir gâteux, Alzheimer, d'être envoyé en maison de retraite ou je ne sais quoi. Ceux qui travaillent, ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, ont peur d'être au chômage. Ceux qui sont au chômage, peur de ne pas retrouver de travail. Les jeunes qui font leurs études ont peur de ne jamais trouver un emploi. Et puis, quand on est jeune, c'est compliqué aussi. On a peur de ne pas trouver le bon conjoint, de ne pas savoir comment organiser sa vie. Les encore plus jeunes ont peur de rater leurs études, de ne pas avoir le baccalauréat. Et les encore plus jeunes ont peur de redoubler la quatrième, la cinquième, la sixième ou autre. Ils ont peur d'avoir une mauvaise note à leur interrogation de récitation ou je ne sais quoi. Et les tout petits ont peur que leurs parents les abandonnent. Et bref, du berceau jusqu'à la mort, nous sommes sous l'angoisse de la peur. Et il faut bien dire que les médias ne font qu'encourager cette chose d'une façon constante, avec, je dirais, une énergie et absolument considérable. Il suffit d'ouvrir un poste de radio ou de télévision pour que l'on nous en rajoute encore sur la peur des terroristes, sur la peur de l'islamisme, sur la peur du réchauffement climatique, sur la peur de la surpopulation, sur la peur de la pollution, de la crise économique et de tout cela. Bref, il faut bien dire, le paysage dans lequel nous vivons est extrêmement anxiogène. Alors la réponse de la Bible à tout cela, c'est « n'ayez pas peur ». Et « n'ayez pas peur », Jésus le dit un nombre considérable de fois. Et la tradition chrétienne prétend même que ce « n'ayez pas peur » que l'on trouve partout dans l'Évangile, que l'on trouve partout aussi dans l'Ancien Testament, la tradition chrétienne prétend que dans toute la Bible, « n'ayez pas peur » se trouve 365 fois. Alors, je n'ai pas réussi à compter parce que c'est dit parfois de façon différente. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ou d'autres choses. Mais 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur, c'est-à-dire une fois pour chaque jour de l'année. Et donc tous les jours, nous avons cette bonne parole de la Bible elle-même qui nous dit inlassablement, n'ayez pas peur. Alors moi, je suis de bonne volonté, je veux bien le croire, et je veux bien essayer de n'avoir pas peur, mais comme j'aime questionner, je me dis, mais après tout, pourquoi ? Pourquoi n'aurions-nous pas peur ? Et en quoi est-ce que notre foi dans ce Dieu de la Bible, dans ce Dieu de Jésus-Christ, en quoi notre foi peut-elle nous aider à vaincre cette peur ? Il y a plusieurs réponses à cela, et Je vois deux grandes catégories de réponses qui peuvent nous aider à comprendre de quelle manière notre foi peut nous permettre de dépasser cette peur que l'on a et que l'on nous renvoie sans arrêt. La première réponse, qui est celle dans laquelle je fonctionne le plus facilement, mais ensuite je vais aller vers d'autres, vous verrez. La première, c'est de dire, dans le fond, ces peurs sont toutes d'ordre matériel. C'est-à-dire que ce sont toujours des peurs purement concrètes et matérielles. Si vous perdez votre travail, c'est pas très grave. Si vous perdez votre fortune, est-ce important, etc. Et même si vous mourrez, est-ce que c'est grave ? Il y a des tas de gens qui naissent et qui meurent tous les jours, c'est un drame, c'est pas un drame absolu. Et donc tout cela ne sont que des craintes d'ordre matériel. Or, il faut bien comprendre que le monde matériel, de toute façon, n'est qu'une ombre qui passe. Le monde matériel et tout ce qui est matériel est tout à fait secondaire, en quelque sorte, par rapport aux choses les plus importantes de notre existence. C'est de la poussière qui retourne à la poussière. Et l'Évangile nous apprend, nous répète sans cesse, que la seule chose qui compte dans notre vie, c'est ce qui est du domaine du spirituel. Alors cela, le domaine spirituel, eh bien, c'est ce qui dans notre vie est de l'ordre du sens de l'amour, du partage, de la grâce. Et c'est-à-dire le trésor qui est intérieur à nous-mêmes et qu'aucune condition matérielle ne peut nous retirer. Jésus lui-même, dans ce célèbre chapitre sur les soucis du monde, le dit à plusieurs reprises. Il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou pas, ou de ce que si vous avez de quoi vous vêtir, parce que dans le fond, ça n'a aucune importance. Parce que la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement, dit-il. » Et il dit « Oui, il y a toutes ces préoccupations matérielles, dit Jésus, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, ne vous préoccupez pas de cela, cherchez le royaume de Dieu. » Et je ne crois pas qu'aucune situation matérielle, quelle qu'elle soit, puisse empêcher qui que ce soit de rechercher le royaume de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire de rechercher la juste relation à l'autre et à son propre Dieu. C'est-à-dire une façon d'être en contact, je dirais, en écoute, de donner, de recevoir et d'être dans une relation d'amour avec un autre. Et cela, on l'a vu aussi dans des situations extrêmes, qui sont terribles, mais souvent les situations extrêmes permettent de mieux comprendre que sont les personnes qui ont été envoyées dans des camps de concentration et donc privées de tout, en fin de compte, privées de tout. Eh bien, on a vu dans ces situations certaines personnes qui restaient des personnages extraordinaires. Parce que, quelle que soit la dureté de la situation, il y a toujours un frère ou une sœur à aimer. Il y a toujours quelqu'un de plus pauvre, de plus triste à consoler, et il y a toujours quelque chose à donner, parce que la seule chose qui nous fait vivre et la seule chose qui donne sens à notre existence, c'est la relation. Et je pourrais même aller plus loin en disant que même si il était enfermé dans la solitude, il y a toujours quelqu'un qui franchit tous les barreaux des prisons et les murs de toutes les cellules, c'est Dieu lui-même. Et il y a justement, quelle que soit la situation, toujours la possibilité d'adorer son Dieu dans son cœur. Et cela, personne ne peut le retirer. Donc ne vous inquiétez pas, quels que soient vos diplômes, vos travails, votre fortune, la situation politique du pays, on ne pourra jamais vous retirer l'essentiel qui est la dimension spirituelle qui est dans votre existence. D'une autre manière, Jésus a dit aussi, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. C'est Jésus qui dit cela, et qui après ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme. Alors cette solution, elle est finalement assez proche de la pensée de l'Inde. Vous savez, dans l'Inde, l'idée c'est le détachement, qu'il faut apprendre à se détacher du monde et que toutes nos souffrances et nos angoisses viennent d'un attachement excessif au monde, c'est-à-dire au monde matériel. Et cette pensée de l'Inde a un grand nombre de parentés avec la pensée de l'évangile de Jean, qui parle du monde, entre guillemets, et le monde, pour Jean, c'est le monde matérialiste. Voilà. Et Jean oppose ainsi ce monde, donc matériel, qu'il considère comme plutôt pas très bon, il faut le dire, plutôt dangereux et plutôt néfaste, il l'oppose au royaume spirituel de Dieu. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean, « N'aie pas peur, petit troupeau, car j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire moi, j'apporte quelque chose qui est tellement au-delà de tous les problèmes matériels que vous pourriez avoir, que je vous donne le vrai trésor que personne ne peut vous retirer. La seule différence, c'est que on accède à cette libération du matériel par sa propre progression spirituelle, c'est-à-dire par une sorte de travail de détachement, alors que dans l'Évangile, cette libération nous est offerte par grâce, c'est-à-dire que nous sommes libérés non pas par nos propres efforts, ou pas seulement par nos propres efforts, mais libérés par un amour qui nous est donné et que nous recevons et qui nous libère. Alors ça, c'est la première solution qui est, je dirais, une façon en quelque sorte d'esquiver le problème et de dire, certes, il y a un problème, Dieu n'y fait rien du tout, mais dans le fond, cela ne me concerne pas. Et quelle que soit la situation, il y aura toujours la possibilité d'aimer. Cette réponse est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Parce que c'est vrai que chaque fois que je baptise un bébé, par exemple, ou que je vois des gens qui font des enfants, je me dis, oh là là, petit lapin, t'as 3 mois, 6 mois, tu vas vivre 100 ans. Que sera le monde en 2115? Et je suis pris d'une angoisse terrible. Je me dis, est-ce que vraiment on peut faire des enfants et finalement les jeter dans un monde qui, déjà dans l'état actuel, c'est pas brillant, mais dont tous les indicateurs nous montrent que ça va aller à la catastrophe? Eh bien, la réponse est oui. Parce que d'abord, je crois que le monde n'aura de sens que s'il y a de l'amour, et que donc nous devons être plantés dans ce monde des ferments d'amour, de tendresse et de fraternité. Et d'autre part, je crois que quelle que soit la situation, de toute façon, il y aura toujours de l'amour à donner et à recevoir. Et que par conséquent, la vie méritera toujours d'être vécue, quelle que soit la situation matérielle qui soit donnée. Donc oui, n'ayez pas peur, comme dit Jésus, car j'ai vaincu le monde et Jésus nous offre quelque chose de plus grand et de plus fort que le monde. Ça, c'est ma réponse à moi. La deuxième réponse, plutôt que j'aurais dû mettre d'abord parce que c'est la plus classique, mais c'est celle dans laquelle j'ai le plus de mal à croire, c'est de dire « n'ayez pas peur parce qu'il y a un Dieu à la commande, il y a un Dieu qui agit ». C'est-à-dire, là, ce serait de dire « je n'ai pas à avoir peur puisque j'ai confiance en Dieu et je crois que Dieu veille », autrement dit. Autrement dit, une sorte de confiance, d'optimisme, finalement, en disant « évidemment, les gens nous annoncent toujours le pire parce que ça fait de l'audience dans les médias, mais néanmoins, la providence divine veille et Dieu fera en sorte que les choses n'aillent pas à la catastrophe ». C'est-à-dire que Dieu gouverne le monde, en quelque sorte. Il y a un Dieu qui veille là-dessus et qui protège le monde et qui fera en sorte que, finalement, l'histoire s'en sorte bien. Et en ce sens, ce serait ça la foi, avoir confiance dans un Dieu qui agit. Alors, c'est compliqué parce que ce type de réponse suppose que l'on croit dans un Dieu qui puisse agir rapidement et matériellement dans le monde, et ça n'est pas évident, pour tout vous dire. Ça n'est pas évident théologiquement, et je dirais même que ça n'est pas évident par rapport à notre propre expérience de la vie. En effet, nous voyons tous, et nous connaissons tous, des personnes extrêmement croyantes, des personnes qui ont prié beaucoup, énormément, qui prient, qui sont croyants, avoir des malchances matérielles insupportables. Et on en voit. Et on voit des personnes extrêmement croyantes, et ces gens les plus croyants, les plus priants, les plus pleins de foi, est-ce qu'ils sont préservés, je dirais, de la déchéance et d'un Alzheimer effroyable à leur fin de vie? Réponse, non. Alors, à quoi cela leur servait-il de prier Dieu toute leur vie, ou de leur demander d'échapper à tel ou tel malheur, si de toute façon, cela n'a servi à rien? C'est une vraie question. Que fait Dieu réellement? Alors, sur le cours du monde lui-même, vous savez que le grand bouleversement théologique, ça a été effectivement la guerre de 40. Jusque-là, un bon nombre de chrétiens croyaient dans la providence divine. Voire même, on dit, la guerre de 14, ça a été un massacre terrible, mais c'est quand même les bons qui ont gagné. Ouf, grâce à Dieu. Et puis, en 40, c'est allé trop loin. Et quand on a découvert les camps de concentration et tout cela, on s'est dit, mais attendez, quand même, s'il y a un Dieu qui agit, où était-il? Et ça a donné tout ce courant de théologie sur cette question, comment peut-on croire en Dieu après Auschwitz? C'est-à-dire qu'en devant le concentré insupportable du mal, comment croire dans un Dieu capable d'agir dans l'histoire s'il laisse faire des choses aussi terribles, aussi effroyables, et s'il laisse autant de souffrances, d'injustices, de morts dans ce monde, à ce moment-là, comment peut-on encore croire en Dieu? Alors, cette question a été une vraie question théologique, et je pense que, à cause de cela, un certain nombre de gens s'éloignent de la religion, tout simplement. Un certain nombre de gens ne croient plus en Dieu et disent donc par conséquent tout cela ce sont des histoires et votre foi n'est qu'une sorte d'auto-persuasion que ça devrait aller mieux, une sorte de méthode Coué en quelque sorte améliorée et un bon nombre de gens ont effectivement quitté, je dirais, la foi, la religion à cause de ce genre de réflexion. Mais je pense que ce serait trop radical. Et que même si on a des problèmes sur la capacité à Dieu d'agir matériellement dans le monde, d'intervenir dans le cours de l'histoire, même si on a des problèmes à ce niveau-là, cela ne veut pas forcément dire qu'il faille rejeter toute idée de Dieu. C'est, comme on dit vulgairement, jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, cela veut dire qu'il y a un questionnement sur l'image que l'on a de Dieu et que peut-être notre expérience ou l'histoire doit nous inviter à réajuster ce que l'on pense de Dieu et à évoluer dans notre foi. Mais c'est normal d'évoluer dans sa foi. La foi d'un adulte n'est pas la foi d'un enfant et la foi d'un Européen du début du 21e siècle n'est pas forcément la même foi que celle d'un Européen au début du 20e siècle et pas non plus la foi d'un Calvin au 16e siècle. Et donc il y a une évolution et une façon de repenser, de remettre en cause la conception que l'on a de Dieu. Et donc ce que je veux dire, c'est que on peut rejeter l'idée que la foi serait l'attente d'interventions concrètes de Dieu dans le cours matériel du monde, sans rejeter pour autant toute idée de Dieu, d'abord, ni même toute idée que Dieu pourrait apporter infiniment de choses dans la vie de chacun. C'est-à-dire que, effectivement, on peut croire que Dieu agit, et que par conséquent, on n'est pas obligé de rester dans le premier point que j'ai dit, qui est le détachement, qui d'ailleurs pourrait très bien se passer de Dieu. J'apprends à me détacher du monde matériel, du coup je n'en souffre pas. On peut croire qu'il y a un Dieu qui agit, mais un Dieu qui n'agit non pas tellement sur le monde matériel, mais un Dieu qui agit sur le croyant. Et je crois personnellement, je suis d'accord avec cette thèse-là, je pense que le monde matériel a, en tout cas à vue humaine, son propre cours. Je pense que le monde matériel peut offrir des joies comme des peines. Le monde est parfois cruel, peu importe. Mais justement, le monde, le royaume de Dieu, je vous l'ai dit, ce n'est pas le boire et le manger. Par conséquent, le domaine dans lequel Dieu intervient n'est pas dans la question du boire et du manger. Il intervient dans l'intériorité même du croyant, c'est-à-dire dans son être profond. Et Dieu peut transformer une vie et peut permettre à une existence de trouver même, je dirais, une forme de bonheur, de paix, d'équilibre et d'harmonie, quelle que soit la situation matérielle qui l'agresse. Et c'est là où je vais au-delà des religions de l'Inde, je vous le disais, qui disaient que c'était que par son effort personnel. Je crois, moi, qu'il y a une puissance divine et céleste qui peut me transformer de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur me transformer en moi-même. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un Dieu qui agit en moi, voilà, et dans chacun de vous. Dieu est une puissance, je le crois, spirituelle, infinie. Il peut transformer nos cœurs. Il peut être une source immense de paix, de confiance, d'espérance, d'amour, de force aussi. Et je pense que la foi, c'est ça. C'est pas d'attendre des miracles éventuels et incertains, mais c'est de savoir qu'en Dieu, quelle que soit la situation matérielle, nous aurons toujours assez parce que Dieu est celui qui peut nous donner le pain spirituel dont nous avons besoin. Dieu peut nous donner l'eau vive qui nous permet de survivre quand notre gorge brûle et est desséchée. Dieu est celui qui peut nous donner la lumière dans notre cœur quand nous croyons que le monde est ténèbres. Et Dieu est celui qui peut nous donner la paix du cœur quand même nous serions dans un pays en guerre. Et en effet, c'est vrai que Jésus lui-même, par exemple, est un cas intéressant parce que le fils, lui, n'a pas été épargné par les problèmes matériels. Je dirais, il a à peu près eu tout ce que nous redoutons d'avoir. C'est-à-dire qu'il était seul, il était dans un pays en guerre, c'est pas drôle, il était sous une occupation extrêmement brutale, il a été trahi par ses amis, il vivait pauvre, il a été rejeté, torturé, mis à mort, seul. Et où était Dieu? Pourquoi n'a-t-il rien fait? La question est posée, Jésus sur la croix dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'apostille, mais la réponse, elle est dans ce même psaume 22 que Jésus cite et qui termine en disant « tu m'as répondu ». C'est-à-dire que la croix elle-même montre que Dieu répond, mais pas comme nous pensons, comme les païens pensent qu'ils devraient répondre. Et les païens, au pied de la croix, disent à Jésus « descends de là et que demande à ton Père de te déclouer de la croix et nous croirons en lui ». Et Dieu ne décloue pas Jésus de la croix, voilà. Simplement, Dieu ne l'a pas abandonné, évidemment. Et Jésus meurt en disant « je remets mon esprit entre tes mains ». Et la foi chrétienne dans la résurrection, c'est bien cela, c'est de dire même, je dirais, une vie comme celle du Christ, même touchée par les pires épreuves matérielles jusqu'à une mort matérielle, eh bien il y a une transcendance qui dépasse cela par le don de Dieu. Et nous croyons que la vie du Christ n'a pas été arrêtée par sa mort et que la grandeur de la vie du Christ n'a pas été annihilée par sa souffrance ou par ses épreuves, mais qu'elles ont traversé tout cela. Parce qu'il y a en Dieu justement cette puissance de vie qui permet de vivre même au travers de la mort. Et ça, je crois que la résurrection, c'est pas... Je dirais le coucou me voilà avec Jésus revient encore trois jours après être mort et redisparaît. Mais c'est plutôt cette croyance fondamentale qu'il y a dans la vie en Dieu une puissance qui peut traverser la mort et qui peut traverser toutes les épreuves possibles. Et donc avec Dieu, on peut traverser la nuit de, je dirais, du deuil, la nuit de l'épreuve, la nuit du dépouillement, la nuit de l'angoisse de l'avenir. On peut traverser l'angoisse de toutes sortes de maladies ou de choses purement matérielles, parce que la force de Dieu est une force spirituelle qui nous amène au-delà de tout cela. Alors jusque-là, donc, voilà à peu près où j'en suis, mais je continue de travailler, de réfléchir, et finalement je ne sais pas. Est-ce que l'on doit vraiment rejeter radicalement toute forme d'action de Dieu dans l'histoire ? Je ne sais pas, c'est vraiment une question que je vous pose, parce que je me pose et que je vous pose, parce que même si intellectuellement, comme je vous l'ai exprimé, je ne suis pas très partisan de croire dans un Dieu qui intervient dans l'histoire, néanmoins, quand je regarde l'histoire même de mon pays, je me dis, c'est quand même incroyable. Certes, 39-40 a fait beaucoup de morts, mais finalement, ce n'est quand même pas la haine qui a gagné. Et ce n'est pas le racisme qui a été victorieux. Et quand on regarde les détails de l'histoire, qu'on découvre que le débarquement en Normandie a réussi, mais à un cheveu, tout ça parce que je ne sais plus qui faisait la sieste et qu'on n'a pas voulu le déranger, et qu'à une demi-heure près, il n'a pas été au courant, et que sinon ça aurait été une catastrophe, et on se rend compte que c'est finalement toute cette victoire même est une succession de coups de chance absolument insensés, absolument incroyables, de hasards incroyables. Or, quand la chance va un peu trop souvent dans le même sens, on peut se poser des questions. Et on peut se demander si, finalement, est-ce que Dieu n'a pas finalement donné un certain coup de pouce à l'histoire ? Et sans, bien sûr, sans intervenir brutalement dans chaque événement, est-ce que le monde lui-même n'est pas poussé par une sorte de, je dirais, de souffle qui pousse quand même le monde dans le bon sens et qui peut infléchir les choses pour éviter qu'en fin de compte, ce soit le mal qui triomphe. Eh bien, je ne suis pas loin de le croire, pour tout vous dire. Donc, vous voyez que ma foi n'est pas tout à fait irrécupérable. Et je vois d'ailleurs un peu la même chose si je me penche sur ma vie personnelle, ce que chacun peut faire. Et quand je regarde dans ma propre histoire, je vois que effectivement les plus grandes chances de ma vie, les choses les plus belles, les plus merveilleuses de mon existence aujourd'hui sont dues à des hasards totalement improbables, à des chances extraordinaires, à des choses totalement imprévues qui n'auraient jamais dû se passer, et ça s'est passé pour ma plus grande chance et mon plus grand bonheur. Et du coup, je me dis aussi, mais sont-ce vraiment des hasards ? Voilà. Et les chances de la vie, ce sur quoi nous sommes construits, est-ce que ce sont vraiment des hasards sans cause, ou est-ce que ce ne sont pas des sortes, justement, de miracles de la vie qui font que chacun de nous est ce qu'il est ? Eh bien, je crois effectivement que c'est compliqué, si vous voulez, entre Dieu n'agit pas du tout dans le monde et Dieu fait tout et n'importe quoi, il y a un curseur à mettre que chacun va mettre à sa manière d'un côté ou de l'autre. Alors il y a l'athée total qui va dire aucune intervention, il y a le croyant naïf qui va dire Dieu peut tout faire, je prie, demande et il le fait. Ensuite il y a celui qui dit je réserve à Dieu le domaine de l'intervention spirituelle. Celui qui va dire, bon, il infléchit le cours des choses, il y a des grâces quand même. Mais dans tous les cas, ce qui est important, je crois, pour nous, c'est de croire que nous ne sommes pas seuls, justement. Et que d'abord, le premier point que j'ai dit au départ sur l'esquive du problème est essentiel parce qu'il permet de déminer la crainte. Voilà, déjà. Et je crois que c'est la base de tout. Donc n'ayez pas peur, parce que le monde matériel n'a aucune importance, donc de toute façon, vous aurez toujours assez pour vivre heureux avec votre Dieu et vos frères et sœurs. Terminé. Et après, eh bien, on peut réinjecter, je dirais, un peu de Dieu. Moi, je le crois, que nous ne sommes pas seuls, et qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, et qui peut nous donner une source de vie, d'espérance, de paix, déjà, dans notre existence. Et je crois aussi, d'ailleurs, que la vie n'est pas qu'un hasard absurde et imbécile, mais que nous devons essayer de discerner ce qui, dans nos vies, sont des chances, justement, et que les croyants appellent des grâces. Alors, est-ce Dieu qui est à l'origine de ces hasards, de ces chances qui passent à nos côtés ? Mais je crois que le fidèle doit être attentif et se dire, finalement, que ce soit Dieu ou pas Dieu, j'en sais rien, mais il y a dans ma vie des trésors qui sont posés à côté de moi et je dois être capable de les reconnaître et de m'en saisir pour en faire mon propre trésor. Mais comprendre qu'on n'est pas le seul à la barre de sa vie, c'est justement se laisser une capacité de disponibilité à l'égard de quelque chose qui ne viendrait pas de soi. Et peut-être que la foi essentielle, c'est justement de sortir de l'égoïsme, de sortir de l'idée qu'on serait les seuls acteurs de notre vie et qu'on ne devrait tout qu'à nous-mêmes, qu'à nos projets, nos plans, nos réalisations, mais être capable d'avoir l'humilité de dire « Je suis petit dans un projet qui me dépasse et je dois être capable de m'adapter à un projet qui me dépasse et à accepter des choses qui ne viennent pas de moi et de me construire à partir de ce qui m'est offert. » Autrement dit, quand nous disons que dans la religion tout est grâce, c'est à la fois savoir que pour nous, la chose importante, c'est d'être capable d'être des êtres de grâce, mais surtout d'être capable de recevoir une grâce. Et la foi, c'est ça, la foi en Dieu, je crois, c'est justement de se dire « je suis surplombé par une réalité qui me dépasse ». Dans tous les cas, Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut en dire et en comprendre. Ce que Dieu peut faire ou ne pas faire dans le monde dépasse notre entendement et notre intelligence. Mais je crois d'une façon ferme et définitive qu'il y a des choses dans ce monde qui ne dépendent pas de moi et que d'autre part ce monde n'est pas juste soumis à une sorte de hasard absurde qui ferait que n'importe quoi se passe dans n'importe quel sens, mais il y a effectivement un Dieu qui sous-tend le monde et il y a un Dieu qui est mon Dieu, qui est le Dieu du monde et qui est mon Dieu à moi personnel, qui est le compagnon de ma vie et qui est le sens de ma vie et de l'histoire du monde. Donc oui, ne crains pas, petit troupeau, nous dit Jésus, car Dieu a déjà choisi de vous donner le royaume. Amen.